بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، لون جاء الله سبحانه وتعالى matin et soir qui nous a comblé de ses bienfaits qui sont qu'on ne peut pas comptabiliser. Lors de la sieste d'hier, nous avons vu dans le récit comme Salama a conté concernant la deuxième hijra vers l'Abyssinie, comment les émissaires de Quraysh ont échoué à faire expulser les compagnons du prophète alayhi salam par l'eunuque d'Abyssinie. Et dans ce récit, il y a beaucoup de leçons à retenir, dont certains sont ainsi. La première leçon, c'est que le soumis à Allah subhanahu wa ta'ala qui ne peut pas accomplir l'adoration d'Allah comme le veut Allah, il ne peut pas faire apparaître sa religion comme le veut Allah subhanahu wa ta'ala dans un pays, doit le quitter pour un autre pays où il peut accomplir sa religion et il peut faire apparaître des emblèmes de sa religion. Les nobles compagnons du messager sallallahu alayhi wa sallam, quand la vie est devenue insupportable pour eux à la Mecque et qu'ils ne pouvaient plus accomplir leur religion, ils ont émigré vers l'Abyssinie. Le messager d'Allah, alors que c'est la meilleure créature d'Allah, a quitté la meilleure terre d'Allah, la Mecque, pour pouvoir, lui et ses compagnons, réserver le culte exclusivement à Allah subhanahu wa ta'ala, comme le veut Allah subhanahu wa ta'ala, et pour accomplir leur religion comme le veut Allah subhanahu wa ta'ala. Est-ce que maintenant l'Europe, où la religion d'Allah est bafouée, critiquée, où le messager d'Allah est calomnié, est mieux que la Mecque? Est-ce qu'on est mieux que le messager d'Allah et ses nobles compagnons d'Allah alayhim? Notre modèle, c'est le messager. Sa voix et celle de ses compagnons est obligatoire. Qu'est-ce qu'on attend? Vu la situation dans certains pays d'Europe, bientôt il va y avoir les tribunaux d'inquisition. Ils ne sont pas très loin. Deuxième leçon à retenir, c'est les croyants préservent les droits d'Allah. Allah leur ouvre des issues et les défend, subhanahu wa ta'ala. Qala azza wa jal, wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Dans Sourate la répudiation, le verset 2, sa traduction approximative, nous dit ceci, la traduction approximative du sens, « Celui qui préserve les droits d'Allah, Allah lui accorde une issue favorable. » Wa qala subhanahu wa ta'ala, dans la même sourate, verset 4, « Wa man yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra. » La traduction approximative du sens de ce verset nous dit « Celui qui préserve les droits d'Allah, Allah lui facilite toute situation. » وقال سبحانه وتعالى إن الله يدافع عن الذين آمنوا. Dans Sourate le pèlerinage, verset 38, il est dit dans la traduction approximative du sens de ce verset cité ici, Allah prend la défense de ceux qui croient. Méditez. Cet accueil que le négus a réservé aux nobles compagnons d'Allah alayhim. Et comment il a refusé de les renvoyer. Et il a rejeté la demande des Quraïchites ainsi que leur présent. Et il leur a dit, vous êtes là et vous vivrez en paix. Et celui qui vous insulte, vous calomnie, vous fait du mal, il paiera une amende. Allah subhanahu wa ta'ala défend les croyants. Allah subhanahu wa ta'ala ouvre des issues aux croyants. Allah subhanahu wa ta'ala aime les croyants et leur facilite toute situation. Regardez comment Allah subhanahu wa ta'ala a ouvert une issue pour les nobles compagnons. Il leur a facilité la situation avec leur hijra vers l'Abyssinie et il les a défendus contre eux, leurs ennemis. Je vous compte un petit fait qui est arrivé cette semaine. Un jeune de souche française avec son épouse qui ont immigré ici dans la ville de Knitra a été orienté par un autre jeune français vers un directeur d'école pour qu'il puisse y travailler et pour qu'il puisse avoir ses papiers. Et j'ai appris que ce directeur d'école a dit au français qui a été l'intermédiaire, même si je ne l'emploie pas, je vais faire en sorte de lui faire un contrat pour qu'il puisse avoir ses papiers. Regardez comment Allah subhanahu wa ta'ala fait exister des moyens et facilite la situation de tout un chacun qui se sauve vers Allah subhanahu wa ta'ala pour sauver sa religion, pour la pratiquer au mieux, pour protéger sa descendance et pour éduquer ses enfants comme il se doit. La troisième leçon à retenir, c'est que les mécréants en tout lieu et tout temps dépensent leur fortune pour détourner les soumis à Allah subhanahu wa ta'ala de leur religion. Et utilisent tous les moyens qu'ils ont pour détourner les soumis à Allah subhanahu wa ta'ala de leur religion et de les empêcher de la vivre comme il se doit et de l'accomplir comme il se doit. Et combien la soirée d'aujourd'hui ressemble à celle d'hier. Combien de fois les autorités européennes et américaines ont mis la pression aux dirigeants des pays vers lesquels ont immigré des jeunes avec leurs familles pour apprendre l'arabe, pour apprendre leur religion, pour qu'ils les expulsent et pour qu'ils leur rendent la vie difficile et pour qu'ils n'acceptent pas les nouveaux arrivants sur leur territoire. Combien de familles ont été remises dans le même avion qui les a ramenés et combien ont passé quelques nuits au cachot local en Égypte ou ailleurs avant d'être renvoyés vers leur pays d'où ils sont arrivés. L'histoire se répète, mais les acteurs ainsi que les moyens sont différents. Allah subhanahu wa ta'ala nous a dit, nous a relaté tout ça dans le Coran. إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون والذين كفروا إلى جهنم يحشرون. Dans sourate Le Butin, verset 36, il est dit, dans la traduction approximative du sens du verset, les mécréants dépensent leurs biens pour détourner les gens du sentier d'Allah et lorsqu'ils les auront dépensés, ils seront pour eux une source de regret. Puis ils seront vaincus et tous les mécréants seront rassemblés vers l'enfer. Le Butin, verset 36. On a bien vu comment les mécréants ont dépensé en envoyant leurs émissaires avec des présents au négus et à ces hommes de l'église, et le résultat, le regret. Ils sont revenus bredouilles et avilis. La quatrième leçon à retenir dans ce récit de Salama radiallahu anhu wa ardaha, la véracité sauve. Ja'far Abu Talib et ceux qui étaient avec lui en Abyssinie, quand ils ont été véridiques avec le Nugus, ils ont rien caché de leur aqida, la bonne fin était pour eux. Allah subhanahu wa ta'ala nous a dit dans le Coran, Ya ayyuha alladhina amanu taqullaha wa kunu ma'as sadiqin. Dans Sourate le Repentir, le verset 119, la traduction approximative du sens de ce verset nous dit « Ô vous qui avez cru, ô vous qui croyez, préservez les droits d'Allah et soyez du nombre des véridiques. » Et dans le hadith authentique, le messager d'Allah a dit « Attachez-vous à la véracité car la véracité guide vers le bien et le bien mène vers le paradis. » Il n'y a qu'à voir comment l'issue qu'Allah subhanahu wa ta'ala a réservé à ses nobles compagnons, une fois qu'ils étaient véridiques, en disant la vérité sur Isa alayhi salatu salam au Négus, et en disant la vérité de la révélation du prophète alayhi salatu salam, comment ils ont été accueillis et comment ils ont pu vivre paisiblement chez le Négus en réservant le culte exclusivement à Allah subhanahu wa ta'ala et en ayant la tranquillité dans la pratique de leur religion. Donc, dans le paragraphe précédent, nous avons vu comment les émissaires de Quraysh ont subi l'échec et n'ont pas pu avoir du Négus le renvoi des compagnons vers la Mecque, le renvoi des premiers musulmans vers la Mecque. Ce qui n'a pas plu à Quraysh. Ceci a mis Quraysh en rage. Et de là, ils ont augmenté les persécutions des musulmans qui sont restés à la Mecque. Au point de s'attaquer à Abu Bakr, radiallahu anhu arda, qui fait partie des notables. Dans le récit que rapporte Cheikh Nasser Dil Alban, rahmatullah alayhi, dans la biographie authentique du messager alayhi salatu wassalam, quant à Abu Bakr, quand la situation est devenue insupportable pour Abu Bakr à la Mecque, et qu'il a été maltraité par les politistes, et qu'il voyait comment Quraysh s'acharne sur le messager d'Allah ainsi que sur ses compagnons, il a demandé l'autorisation au messager d'Allah pour faire la hijra. Et le messager d'Allah lui a autorisé. Dans le hadith rapporté par l'imam Bukhari, rahimahullah, Aisha ridwanullah alayha, nous dit, depuis que je fais la part des choses, je me souviens que mes parents étaient dans la religion. Depuis qu'il se rappelle qu'il fait la part des choses, Aisha radiallahu anha, qui était une jeune fille, savait et voyait que ses parents étaient dans la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et Aisha de dire, il n'y a pas un jour qui passe sans que le prophète ne passe chez nous le matin et le soir. Et quand les musulmans étaient éprouvés, Abu Bakr est sorti pour faire la hijra vers l'Abyssinie. Et quand Abu Bakr est arrivé à Bark al-Ghamad est un endroit qui se trouve à la distance de 5 nuits de la Mecque en direction du Yémen. Ibn Darna, qui était le chef de la tribu Al-Qarra, l'a rencontré. Il lui a dit, « Oh Abu Bakr, où tu vas ?» Abu Bakr lui a dit, « Je veux errer sur terre pour adorer mon Seigneur, car mon peuple m'a obligé de sortir. » Ibn Darna lui a dit, « Quelqu'un comme toi, Abu Bakr, on ne le sort pas et il ne sort pas, car tu aides les démunis, et tu entretiens les liens du sang, et tu prends à ta charge celui qui ne peut rien, et tu honores l'autre, et tu aides sur la vérité. Je te prends sous ma protection. Reviens et adore ton Seigneur dans ton pays. » Ibn Darna est revenu à la Mecque avec Abu Bakr. Et l'après-midi, il est passé voir les notables. Ibn Darna est passé voir les notables de Quraysh. Il leur a dit, « Quelqu'un comme Abu Bakr ne sort pas. On ne le fait pas sortir. » Vous faites sortir un homme qui aide les démunis, qui entretient le lien de sang, qui prend à sa charge ceux qui ne peuvent rien, qui honore le hôte et aide sur la vérité. Quraysh, les politistes de Quraysh ont accepté la protection de Ibn Darna pour Abu Bakr. Ils ont accepté la protection de Abu Bakr par Ibn Darna. Et ils lui ont dit, dit à Abu Bakr d'adorer son Seigneur à l'intérieur de sa demeure et qu'il y prie comme il veut dans sa demeure tout simplement et qu'il ne nous fasse pas de mal avec cela et qu'il ne se montre pas avec car nous avons peur qu'il perturbe nos femmes et nos enfants. Ibn Darna a annoncé cela à Abu Bakr. Abu Bakr est resté à laps de temps à adorer son Seigneur et à prier Allah subhanahu wa ta'ala et à lire le Coran dans sa demeure sans le montrer et sans se montrer avec. Et puis Abu Bakr a pris la décision de se faire un musalla, un lieu de prière dans la cour externe à la maison, entouré de murailles. Mais quand il a commencé à y réciter le Coran et à y prier, les femmes et les enfants des polythéistes se rassemblaient sur le mur et l'admiraient. Abu Bakr était un homme, comme il est relaté dans le récit de Aïcha, qui ne pouvait pas s'empêcher de pleurer en lisant le Coran. Les notables de Quraysh ont eu peur de cela et ils ont convoqué Ibn Darna et lui ont dit: nous avons protégé Abu Bakr par ta protection, à condition qu'il adore son Seigneur à l'intérieur de sa demeure. Et il a dépassé cela en construisant un Moussalla dans la cour extérieure à celle-ci. Et il a montré sa prière, sa lecture du Coran, et nous avons peur qu'il perturbe nos femmes et nos enfants. Dis-lui d'arrêter cela. Et s'il veut, il se limite à adorer son Seigneur dans sa demeure. Et s'il veut montrer cela, demande-lui de te rendre ta protection, car on déteste ne pas la respecter. Et on n'acceptera pas qu'Abu Bakr montre son adoration. Aïcha radiallahu anha a dit: Ibn Darna est venu voir Abu Bakr Siddiq, ridwanullahi alayhi majma'in. Il lui a dit: soit tu te limites au pacte que je t'ai fait, soit tu me rends mon pacte. Je n'aimerais pas que les Arabes entendent que j'ai été trahi sur le pacte que j'ai noué à quelqu'un. Abu Bakr lui a dit: je te rends ta protection et j'accepte la protection d'Allah. Le récit est relaté par l'imam Bukhari. Regardez cette fois, alors qu'ils étaient peu nombreux, les polythéistes sont nombreux et les polythéistes avaient la force. Et malgré cela, regardez cette fois et ces efforts qu'ont prodigués ces nobles compagnons pour la religion d'Allah. Et voici un autre récit. Regardez aussi ces sacrifices et comment les gens accouraient vers la religion d'Allah Azza wa Jal. Abu Musa al-Ash'ari, radiyallahu anhu wa ardah. Voici le récit d'Abu Musa al-Ash'ari, radiyallahu anhu wa ardah, et de ses compagnons et de leur, et comment ils sont arrivés en Abyssinie. Selon le hadith rapporté par Al-Bukhari, rahimahullah, Abu Musa al-Ash'ari a dit: nous avons su l'envoi du prophète alors que nous étions au Yémen. Et nous avons pris le large et notre embarcation a échoué chez le Négus en Abyssinie. Nous y avons rencontré Ja'far bin Abi Talib et nous sommes restés en sa compagnie et nous sommes partis. Et nous sommes partis avec lui vers Médine et nous avons rejoint le prophète lors de la conquête de Khaybar. Ils ont entendu parler du prophète, ils ont pris le large pour le rejoindre. Leur embarcation a échoué en Abyssinie. Ils ont rencontré ses compagnons qui ont fait la hijra vers l'Abyssinie. Ils sont restés avec eux jusqu'à la bataille de Badr, de Khaybar. Et à ce moment-là, ils sont partis avec les compagnons vers le prophète alayhi salam. Et nous avons rejoint le prophète lors de la conquête de Khaybar. Le prophète a dit: vous les gens du bateau, vous avez deux hijras, rapportés par Al-Bukhari. Vous les gens du bateau, en parlant d'Abu Musa al-Ash'ari, vous avez deux hijras. Le prophète a dit cela quand Omar ibn al-Khattab a dit aux gens du bateau: nous vous avons devancé dans la hijra. Ne sont prioritaires sur le messager d'Allah par rapport à vous. Quand ceci est arrivé au prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il a dit: non, il n'est pas plus prioritaire que vous. Et il a dit, et le prophète a dit: il a une hijra. Et vous les gens du bateau, vous avez deux hijras. Ça veut dire que Omar ibn Khattab et les compagnons qui sont partis à Médine ont une hijra. Et ceux du bateau ont deux hijras. Et le hadith est rapporté par l'imam Bukhari ou l'imam Muslim. Vous voyez un peu comment ces nobles compagnons font des sacrifices pour leur religion. Et avec tout ça, cela excite encore plus la haine des mécréants. Les mécréants n'obéissent pas les bras. Ils n'ont jamais cessé d'utiliser tous les moyens pour empêcher les gens de rentrer dans l'islam, mais ils n'ont pas réussi. Comme ceux d'aujourd'hui qui font la guerre à la salafia et qui calomnient la salafia, et la salafia est innocente de tout ce qu'ils disent. Font la guerre à la salafia par tous les moyens, ils n'arriveront pas à la stopper. Comment l'être humain, cette faible créature qui est l'être humain, peut arriver à stopper la voie qu'Allah aime et agrée? Regardez et méditez la situation depuis 2 ans. Ils n'ont pas pu stopper le Covid, une petite chose qui ne se voit pas, qui ne peut pas être vue à l'œil nu. Impossible qu'ils arrivent à stopper ce qu'Allah aime et agrée. قال عز وجل والله غالب على امره ولكن اكثر الناس لا يعلمون. Dans sourate Yusuf, verset 21, la traduction approximative du sens de ce verset nous dit: Allah accomplit toujours son commandement, mais la plupart des hommes ne savent pas. Vous voyez, comme je vous l'ai dit auparavant, tous ces textes et tous ces récits et cette série, c'est pour nous motiver et pour augmenter notre certitude et augmenter notre foi en Allah Azza wa Jal et en les promesses d'Allah, et pour augmenter aussi notre amour à notre messager alayhi salatu wa salam et à ses nobles compagnons, et pour augmenter notre suivi au messager alayhi salatu wa salam et à ses nobles compagnons et à ceux qui les suivent à la perfection. Wa qala Azza wa Jal يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. Dans sourate le repentir, verset 32-33, la traduction approximative du sens du verset nous dit cela: ils veulent éteindre la lumière d'Allah par les mensonges que profèrent leurs bouches, alors qu'Allah veut parachever sa lumière, quelque répulsion qu'en aient les mécréants. C'est lui qui a envoyé son messager avec la guidée et la religion de vérité pour la faire prévaloir sur toute autre religion, quelque répulsion qu'en aient les polythéistes. Donc, les mécréants d'aujourd'hui censurent la même voix de ceux qui les ont précédés durant la période de la période pré-islamique. Regardez, méditez ces tweets de certains ministres qui sont une forme de forte pression contre les musulmans qui ont réussi soit dans la restauration, soit dans le commerce et autres, et à qui on colle des étiquettes, l'étiquette du financement du terrorisme, et cela, s'il nous rappelle quelque chose, doit nous rappeler les tribunaux d'inquisition. Wallahu al-musta'an. Bien sûr, on est contre toute forme de terrorisme. Et on est pour tous les moyens et toutes les mesures qui combattent le terrorisme. N'importe sa couleur, n'importe dans quel pays où il s'accomplit. Et de l'autre côté, on s'indigne des fausses accusations, des fausses accusations qui des fois sont pour des buts qui sont vils, pour des chaises au parlement, pour des sièges au parlement, pour gagner les élections ou autres, que Allah subhanahu wa ta'ala nous préserve. Vous voyez, les mécréants de Quraysh n'ont pas cessé tout ce qui est en leur capacité pour que les gens ne rentrent pas dans l'islam, comme les mécréants d'aujourd'hui utilisent tous les moyens pour faire peur aux gens et pour leur mettre la pression pour s'éloigner de la religion de vérité. Et malgré cela, les gens ne cessent de rentrer dans la religion d'Allah et de suivre le messager. Et malgré cela, dans le monde, il y a un engouement pour la salafia chez les jeunes et un engouement pour l'apprentissage de la langue arabe, du Coran et de la Sunna. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala préserve cette jeunesse et qu'Allah subhanahu wa ta'ala raffermit cette jeunesse sur la voie de son messager alayhi salatu salam et sur la voie de ses nobles compagnons et de ceux qui les suivent à la perfection. Donc malgré tout cela, les gens ne cessent d'entrer dans la religion d'Allah et de suivre le messager d'Allah. Et voilà que Hamza ibn Abd al-Muttalib, l'oncle du messager alayhi salatu salam, et son frère de les rentrent dans l'islam. Le messager d'Allah a dit de Hamza, le noble des martyrs auprès d'Allah le jour de la résurrection, c'est Hamza ibn Abd al-Muttalib. Et ceci est rapporté dans Sahih al-Jami'. Dans le récit que rapporte Ibn Sa'd dans Sira, dans la biographie, il a cité qu'une fillette a injurié Hamza par le mal que fait subir Abu Jahl à son frère Muhammad. Et là, Hamza est parti en colère vers Abu Jahl. Il a insulté Abu Jahl. Et mis en colère, il s'est mis en colère contre Abu Jahl. Et il a dit à Abu Jahl, comment tu insultes Muhammad alors que je suis sur sa religion? Et il a blessé Abu Jahl une grave blessure. Au début, l'islam de Hamza était par fierté et protection de son frère, de lui et de son neveu en même temps. Mais Allah a illuminé le cœur de Hamza par la lumière de la certitude, au point d'être parmi les croyants méritoires. Fin de citation. Quraysh, les polythéistes de Quraysh, ont su qu'avec la soumission de Hamza à Allah, le messager d'Allah est protégé par son frère de lait et son oncle. Hamza est depuis, par son oncle Hamza, et depuis, ils ne disent plus de grossièreté, ni ils osent faire subir du mal au messager d'Allah. Puis Allah a renforcé les musulmans par la soumission de Omar ibn al-Khattab, radiyallahu anhu arda. Omar, wa ma adraka ma Omar. Omar, qui était un homme fort et craint par tout le monde avant sa soumission. Avant sa soumission à Allah subhanahu wa ta'ala. Omar ibn al-Khattab, qui était fort et craint par tout le monde avant sa soumission à Allah subhanahu wa ta'ala, faisait subir beaucoup de mal aux musulmans. Tellement il était dur. Certains musulmans ont désespéré de la rentrée de Omar dans l'islam. Au point que certains ont dit, Omar se soumettra à Allah quand l'âne de al-Khattab le saura. Tellement ils étaient désespérés. Parce qu'il était très dur avec eux. Mais Allah, subhanahu wa ta'ala, a exaucé le dua de son messager, alayhi salatu wa salam. Comme il est rapporté dans la sira authentique du Sheikh Nasr al-Din al-Albani, rahmatullah alayhi, le messager d'Allah disait, « Oh Allah, renforce l'islam par l'un des hommes que tu aimes parmi ces deux hommes, Abu Jahl et Omar. » Ibn al-Khattab. Le messager d'Allah a dit, Omar ibn al-Khattab était celui qui est aimé par Allah. Fin de citation. Le Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, avant l'islam de Omar ibn al-Khattab, faisait ce dua, où Allah renforce l'islam par l'un de ces deux hommes, Abu Jahl et Omar. Et Allah subhanahu wa ta'ala, par l'un de ces deux hommes que tu aimes. Et Allah subhanahu wa ta'ala, le messager a dit qu'Allah subhanahu wa ta'ala aimait Omar ibn al-Khattab radiyallahu anhu arda. Les musulmans étaient heureux par l'islam de Omar. L'islam a été renforcé ainsi que les musulmans. Dans le récit que rapporte al-Bukhari rahimahullah, Ibn Mas'ud dit, nous sommes devenus forts avec l'islam de Omar. Et dans ce qui est rapporté par Bin Saad, dans Tabaqat, Bin Mas'ud a dit, alors qu'on ne pouvait pas prier à la Kaaba auparavant, une fois qu'Omar s'est soumis à Allah, il s'est battu avec eux jusqu'à ce qu'ils nous ont laissé prier. Fin de citation. Regardez, au milieu de cette mécréance et au milieu de ces mécréants, il les a combattus jusqu'à ce que les compagnons ont pu aller prier à la Kaaba. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala l'agrée. Et qu'il agrée tous les nobles compagnons de Allah alayhim. Quand Omar ibn Khattab s'est soumis à Allah, il ne l'a pas caché. Au contraire, il l'a déclaré devant l'homme qui ne tenait pas sa langue et qui propageait tout ce qu'il entend partout. Omar ibn Khattab a cherché et il a demandé qui est l'homme qui rapporte le plus de paroles aux gens et qui entend quelque chose, qui la propage. Lui ont dit telle personne. Et il a fait exprès d'aller à côté de lui et de dire et de déclarer sa soumission à Allah subhanahu wa ta'ala. Et l'autre, il a été la propager partout. Et parmi les leçons à retenir de l'islam de Omar, et sont nombreuses, voici certaines. D'abord, le dua est très bénéfique. Il ne faut pas oublier cette arme qui est le dua. Le dua est très bénéfique. Regardez comment le dua du prophète sallallahu alayhi wa sallam a été bénéfique à Omar. Donc, ne soyons pas avares de dua pour nous-mêmes, pour nos familles, pour nos frères, pour nos sœurs, pour nos enfants et pour notre communauté. Ne soyons pas avares du dua. La deuxième leçon à retenir, il est permis aux musulmans de faire dua pour qu'Allah guide le mécréant. Le messager d'Allah a demandé à Allah de guider l'homme qu'il aime parmi ces deux hommes, Abu Jahl et Omar. Allah a guidé Omar, ridwanullahi alayhi. Le messager a fait aussi dua pour qu'Allah guide la mère d'Abu Huraira qui faisait du mal à son fils par ses insultes du prophète alayhi salatu wassalam. Allah subhanahu wa ta'ala l'a guidé et a ouvert son cœur à l'islam. Donc, si on a des voisins mécréants, ou là on a de la famille dans la mécréance, etc., il faut faire dua pour eux. Pour qu'Allah subhanahu wa ta'ala les sauve de cette mécréance. Imaginez si Allah subhanahu wa ta'ala, par l'intermédiaire de quelqu'un parmi nous, sauve quelqu'un du feu de l'enfer, ou le fait sortir de par son dua, hein, et qu'il soit une cause pour qu'il se soumette à Allah subhanahu wa ta'ala. Vous imaginez pas le grand bien dans lequel va vivre cette personne qui sort du ténèbre de la mécréance vers la soumission. Et donc, s'il est permis de faire dua pour la guider d'un mécréant, le musulman qui fait des péchés et qui est accablé par la désobéissance mérite plus encore que le mécréant de lui faire dua pour qu'Allah ouvre son cœur au repentir et à l'obéissance. Donc ne soyons pas avares de nos dua. Soyons généreux au niveau du dua. Parce que le dua, il nous servira aussi à nous-mêmes. Quand tu fais dua pour quelqu'un, tu as un ange devant toi qui te dit, tu es la même chose, et à toi la même chose. On retient aussi dans l'islam de Omar que le musulman doit être fier de son islam. Et que le musulman doit avoir la certitude que le croyant est fort et que le mécréant est avili. Omar, radiyallahu anhu arda, quand il s'est soumis à Allah, il l'a déclaré avec fierté, force et honneur devant les mécréants. Et ça ne peut pas être autrement de la part de Omar, radiyallahu anhu arda, car c'est lui qui a dit, nous étions faibles, avilis, Allah nous a donné la force et l'honneur par l'islam. Et si on cherche la force et l'honneur dans autre chose que l'islam, Allah nous avilira. Regardez combien cette parole correspond à la situation de certains faibles qui ont honte de leur islam à travers le monde. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous préserve et qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous guide vers la voie et nous raffermit sur la voie de son messager alayhi salam et de ses nobles compagnons. Et qu'Allah subhanahu wa ta'ala renforce les faibles parmi nous. Compte des politistes de Quraysh n'ont pas pu ramener les musulmans d'Abyssinie. Et ils voient, et les Quraychites voient que les gens de plus en plus rentrent dans l'islam et suivent le messager d'Allah à la tête de ceux qui sont rentrés dans l'islam. Le plus noble des martyrs, Hamza, le plus fort, Omar ibn al-Khattab, par la grâce d'Allah. Par la grâce d'Allah, l'islam de Hamza et de Omar a donné la force, le courage et la protection aux musulmans. Et là, Quraysh a décidé de tuer le messager d'Allah. Dans le récit rapporté par Al-Bukhari Muslim, Abu Huraira dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: le matin du jour du sacrifice, alors que le messager était à Minan, il a dit: demain, nous allons descendre à Khif Bani Kinana. C'est là où se trouve la mosquée Khif. Où les Quraychites, les polythéistes de Quraysh et Kinana ont fait le serment sur la mécréance. Ils désignent par cela le Muhassab, un endroit qui s'appelle le Muhassab, pas loin de la mosquée Khif. Ils désignent par cela le Muhassab au Quraysh. Et Kinana se sont alliés contre Banu Abdul Muttalib pour qu'ils ne commercent plus avec eux et qu'ils ne se marient plus avec eux jusqu'à ce qu'ils leur livrent le prophète d'Allah. Une forme d'embargo. Vous voyez que l'embargo, c'est pas une pratique d'aujourd'hui. Combien de pays a été utilisé l'embargo avec eux? Ceci est une pratique de la période pré-islamique. Les mécréants d'aujourd'hui l'ont hérité des autres. Quand Abu Talib a vu que Quraysh est fermement résolu à tuer le messager d'Allah, il a réuni Banu Abdul Muttalib et les a invités de rentrer avec le prophète dans la vallée d'Abu Talib qui se trouve entre la montagne de Qubays et la montagne de Khindima. Et les a invités à protéger le messager d'Allah. Il les a invités à protéger le messager d'Allah de ceux qui veulent le tuer. Les croyants parmi Banu Abdul Muttalib et les autres, ainsi que les mécréants parmi eux, les croyants ont fait cela avec foi et certitude. Les mécréants parmi Banu Hashim et Abdul Muttalib l'ont fait par fierté et par lien du sang. Quand Quraysh, les politistes de Quraysh, ont vu que Banu Hashim et Banu Abdul Muttalib sont rentrés avec le prophète dans la vallée d'Abu Talib pour le protéger de ceux qui veulent le tuer, Quraysh a décidé d'instaurer un embargo. A décidé d'instaurer un embargo contre eux. Et ils se sont mis d'accord sur le point suivant: qu'ils ne se marient pas avec eux, qu'ils ne commercent pas avec eux, jusqu'à ce qu'ils leur livrent le messager pour le tuer. Et ils ont écrit une circulaire à ce sujet et ils l'ont accroché à l'intérieur de la Kaaba. Cet embargo a duré 3 ans. Cela a causé la faiblesse corporelle du messager et de tous ceux qui étaient avec lui. Ils ont souffert de la faim, mais malgré cela, ils ont patienté et ont duré. Les croyants avaient une totale confiance en Allah, qu'Allah subhanahu wa ta'ala va les délivrer de cette situation. Au bout des 3 années de cet embargo, Allah a désuni les associateurs. Allah subhanahu wa ta'ala a désuni les associateurs et a éparpillé leur unité. Certains ont commencé à se poser des questions. C'est quoi le secret de cet embargo? C'est quoi
la cause de cet embargo, c'est quoi les avantages de cet embargo et c'est quoi ses inconvénients et qu'est-ce qu'ils ont pu et qu'est-ce qu'on a pu récolter de cet embargo. Certains nobles de Quraysh se sont réunis et ont décidé d'annuler cette circulaire injuste de l'embargo. Allahu Akbar. Le messager d'Allah et tous ceux qui étaient avec lui sont sortis de la vallée exténués. Exténués par la faim et par ces douloureuses épreuves. Tout cela à cause de l'injustice et de la transgression de Quraysh. Le messager d'Allah a décidé de faire dua contre eux. Il a décidé de faire dua contre eux qu'ils subissent ce qu'il a subi avec ceux qui étaient avec lui dans la vallée. Et il a fait ce dua. Oh Allah, fais-leur subir sept années comme les sept années de Youssouf, c'est-à-dire sept années de sécheresse. Ce qui veut dire leur faire subir sept années de sécheresse. Et dans une autre version, oh Allah, aide-nous contre eux en leur faisant subir sept années similaires à celles des sept années de Youssouf, rapportées par le Bukhari et Muslim. Quraysh a subi une sécheresse terrible, au point de consommer les feuilles d'arbres, les peaux de bêtes, les cadavres. L'un parmi eux regardait le ciel, et il y voyait de la fumée tellement il a faim. Dire, et tellement il a faim, il voit de la fumée comme si c'est, il y a quelque part des cuisines qui, de quelle sorte cette fumée. Et là, les Quraychites ont été obligés de venir voir le messager d'Allah pour qu'il implore Allah pour les délivrer de cette épreuve. Et le messager de la clémence et de la miséricorde a imploré Allah pour eux. Allah a descendu la pluie. Dans la sira authentique de Cheikh Nasr Din Albani, rahmatullah alayh, Ibn Mas'ud dit: quand le messager d'Allah a vu que les gens donnaient le dos à l'islam, il a dit: oh Allah, fais-leur subir sept années similaires aux sept années de Youssouf. Et ils ont subi la sécheresse au point de consommer les cadavres, les peaux de bêtes, les os. Abu Sufyan, avec des gens de la Mecque, sont venus voir le messager et lui ont dit: « Oh Muhammad, tu prétends que tu as été envoyé comme miséricorde. Ton peuple a péri. Implore Allah pour eux. » Le messager d'Allah a imploré Allah pour eux et ils ont été arrosés. Fin de citation. Regardez, dès que le prophète est sorti de la vallée et de l'embargo, son oncle Abu Talib est tombé malade. Abu Talib, qui était respecté par Quraysh et qui protégeait et soutenait le messager d'Allah alors qu'il est resté dans sa mécréance. Quand Abu Talib était sur le point de mourir, le prophète est venu le voir, il appelait à l'islam, espérant qu'il mourra musulman. Mais la guidée est entre les mains d'Allah, c'est lui qui guide qui il veut, subhanahu wa ta'ala. Louange à Allah subhanahu wa ta'ala de nous avoir guidés à l'islam et d'avoir fait de nous que nous sommes des musulmans. Dans le hadith rapporté par l'imam Bukhari et l'imam Muslim, Saïd ibn al-Musayyib rapporte que son père a dit: quand Abu Talib était sur le point de mourir, le prophète est rentré le voir et il a trouvé autour de lui Abu Jahl et Abdullah ibn Abi Umayya. Le prophète a dit à son oncle: « Oh oncle, dis la ilaha illallah, ni digne d'être adoré qu'Allah. Il sera pour moi un argument pour te défendre auprès d'Allah. » Abu Jahl et Abdullah bin Abi Umayya lui ont dit: « Oh Abu Talib, tu te détournes de la voix de Abdul Muttalib ?»« Oh Abu Talib, tu te détournes de la voix de Abdul Muttalib ?» Et la dernière parole de Abu Talib, la dernière parole qu'il a prononcée, il a dit sur la voix de Abdul Muttalib, sur la voix de Abdul Muttalib, et il est mort. Et le messager a dit, dans la suite du hadith: je demanderai le pardon pour toi tant qu'on ne me l'interdit pas. Et le verset suivant fut révélé.
قال عز وجل وما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه إن إبراهيم لأواه حليم. La traduction approximative de ces deux versets dans Sourat le Repentir, versets 113 et 114, cette traduction approximative du sens nous dit « Ils n'appartiennent pas aux prophètes ni aux croyants d'implorer le pardon en faveur des polythéistes, furent-ils leurs proches après qu'il leur a clairement apparu qu'ils sont voués à la fournaise. Ibrahim ne demanda pardon pour son père qu'en raison d'une promesse qu'il lui avait faite. Mais lorsqu'il lui apparut clairement qu'il était un ennemi d'Allah, il le désavoua. Ibrahim nous invoquait abondamment et il était longanime. » Donc là, le repentir, versets 113 et 114. Et aussi la parole d'Allah, « Innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha. » Et dans Sourat le récit, verset 56, la traduction approximative du sens du verset cité ici, « Tu ne saurais guider qui tu aimes, mais c'est Allah qui guide qui il veut. » Ainsi, on voit le mauvais impact de la mauvaise compagnie. Abu Talib est mort mécréant à cause d'une mauvaise compagnie, Abu Jahl et les autres. Mais Allah a accepté l'intercession de son messager d'Allah en faveur de son oncle Abu Talib. Allah l'a sorti du fin fond de l'enfer vers le haut de celui-ci. Dans le hadith rapporté par l'imam Muslim, l'Abbas ibn Abd al-Muttalib radiyallahu anhu arda a dit, j'ai dit au messager d'Allah, Abu Talib te soutenait, te protégeait. Qu'as-tu fait pour lui? Le messager d'Allah lui a dit, oui, je l'ai trouvé au fin fond de l'enfer et je l'en ai sorti. Et il a tout simplement sur les pieds des braises de feu. Et dans un autre hadith du Muslim, Abdullah ibn Abbas a dit que le messager d'Allah a dit, celui qui subit le plus léger châtiment de l'enfer, c'est Abu Talib. Il est chaussé par des chaussons qui font bouillir son cerveau. Il est chaussé par des chaussons qui font bouillir son cerveau. Donc le messager n'a pas intercédé pour qu'il sorte de l'enfer, car il est mort mécréant. Et le mécréant reste éternellement dans le châtiment de l'enfer. Peu de jours après la mort d'Abu Talib, La meilleure et la plus digne femme du messager d'Allah, Khadija bint Khuwaylid, est morte. Le messager était attristé par la mort de Khadija radiallahu anha wa ardaha. Il n'a pas cessé de la citer en bien après sa mort, au point que Aïcha est devenue jalouse de Khadija, radwanullahi alayhi majma'in. Tellement le prophète ne cessait de parler en bien de Khadija, alors que Aïcha ne l'a jamais vue. Et il est devenu jalouse d'elle. Abu Talib est mort mécréant. Khadija est morte croyante. Et cela doit nous rappeler que la mort est une vérité à laquelle personne n'échappera. Le croyant, le mécréant, le grand, le petit, le président de la République, le riche, le roi, le pauvre, le fort, le faible. Tout un chacun mourra et sortira de ce bas monde. Mais la félicité est pour celui qui sort de ce bas monde en étant croyant et en ayant accompli de bonnes œuvres et aura tout perdu celui qui en sort mécréant en plein désobéissance à Allah Azza wa Jalla. قال عز وجل كل نفس ذائقة الموت. Dans Sourate les Prophètes, verset 35, la traduction approximative du sens du verset nous dit cela: toute âme goûtera à la mort. وقال عز وجل كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. Dans Sourate
le Miséricordieux, verset 26-27, la traduction approximative du sens de ce verset nous dit « Tout ce qui se trouve sur terre disparaîtra, seul demeurera le visage de ton Seigneur, digne de glorification et de vénération. » وقال عز وجل قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم ثم تردون إلى عالم الغيب ثم تردون إلى
عالم الغيب والشهادة
فينبئكم بما كنتم تعملون. Dans sourate le vendredi, verset 8, la traduction approximative du sens de ce verset nous dit la mort que vous fuyez vous rattrapera inévitablement, puis vous serez ramené vers celui qui connaît parfaitement ce qui révèle de l'invisible et ce qui est apparent, et il vous informera alors de ce que vous faisiez. Donc sourate vendredi, verset 8. Fa demandons à Allah subhanahu wa ta'ala de nous donner, de nous raffermir sur la voie de son messager alayhi salatu wassalam et de ses nobles compagnons, et de mourir soumis à Allah subhanahu wa ta'ala. Et nous arrêtons là pour ce soir, inshallah. Subhanak Allahumma bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayk, wa sallallahu wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Barakallahu fikum wa ahsanallahu ilaykum wa jazakumullahu khairan.